Tout ça, c'est des histoires. Sophie Pérez sur Radio Grand Ciel. Bonjour. Ça s'est passé il y a longtemps, au Tibet. Il y avait un paysan qui vivait dans une région où vivait un seigneur très cruel qui prélevait l'impôt tous les ans. Et tous les ans, le paysan devait donner une partie de son troupeau, une partie de sa récolte. Cette année-là, on ne saura jamais pourquoi, mais le seigneur avait décidé de prélever deux fois l'impôt. Le paysan n'avait plus rien. Une fois qu'il a eu payé deux fois l'impôt, il s'est retrouvé avec son âne, un sac avec quelques affaires. Il a vendu sa maison, il a tout laissé, il est parti sur les chemins. Il a cherché du travail, mais personne n'avait besoin d'un paysan. Il est arrivé dans une ville. Au loin, il voyait les premières maisons. Peut-être que là-bas, il y aura quelque chose à faire pour lui. Il s'est approché du chemin qui entrait dans la ville, et juste au bord du chemin, il y avait des enfants en cercle, avec des bâtons. Puis il tapait par terre avec les bâtons, et il entendait des petits cris qui montaient. Il s'est approché, et du haut de son âne, il a regardé, au milieu du cercle, il y avait une petite souris. Et la petite souris, elle essayait de se sauver, elle essayait de partir, mais les enfants, avec le bâton, l'empêchaient de sortir. Le paysan s'est approché des enfants, « Mais qu'est-ce que vous faites avec cette petite souris ?»« Mais elle est à nous, il nous la faut. » Et ils n'arrêtaient pas de taper avec les bâtons, la petite souris était toute perdue. « Mais laissez-la partir, elle est toute petite. Écoutez, je vous donne quelque chose en échange et vous la laissez partir. » Il a ouvert son sac, il a cherché, puis il a sorti son grand manteau en laine. Un beau manteau. Il a tendu aux enfants. Les enfants, quand ils ont vu le manteau, ils ont posé les bâtons. Ils ont pris le manteau, ils ont commencé à se disputer. Pendant ce temps, la petite souris a regardé autour d'elle. Elle a filé dans les herbes. Le paysan les a laissés. Et il a avancé. Il est entré dans la ville. Et une des premières maisons de la ville, c'était une grande bâtisse blanche à 3 étages. Et devant la bâtisse, il y avait une petite table avec un jeune homme très bien habillé qui tenait un petit singe en laisse. Et le petit singe, il avait un service à thé et il essayait de verser le thé dans une tasse. Bon, il n'y arrivait pas trop et à chaque fois qu'il en mettait un petit peu à côté, le jeune homme, il avait un morceau de bois et clac ! Il lui frappait sur la patte. « Qu'est-ce que tu fais avec ce petit singe ?»« Je veux qu'il apprenne à servir le thé. Et tant qu'il ne saura pas faire, il recevra un coup de bâton. » Enfin, il est trop petit, il n'arrivera jamais à apprendre. « Écoute, tu le laisses partir ?» Et puis, moi, je te donne quelque chose en échange. Il a ouvert son sac, il a cherché. Il a bien trouvé quelque chose dans un petit tissu enveloppé. Il l'a tendu au jeune garçon. Le garçon a ouvert et il a vu un collier de turquoise. Quand il a vu le collier, il a laissé tomber la laisse et le singe a escaladé la maison et s'est sauvé. Le paysan est reparti, il a avancé dans les rues. Et alors qu'il avançait, il s'est trouvé face à un groupe de chasseurs qui poussaient devant eux un petit ours, mais un tout petit ours, un petit ourson de quelques semaines qui tremblait de peur. C'est tout ce que vous ramenez de la chasse? Ah oui, on a trouvé que ça, bah bon, on va bien en faire quelque chose, mais enfin, il est tout petit, vous voyez bien, il meurt de peur. Laissez-le partir, vous n'allez rien en faire de ça. Ah bah non, on a chassé toute la journée, il faut bien qu'on ramène quelque chose. Bah écoutez, moi je vous laisse mon âne, puis vous le laissez partir. Ils ont fait le tour, ils ont regardé, l'âne était bien, bien en forme, ils ont pris l'âne, puis ils ont donné un petit coup de pied à l'ours qui lui s'est sauvé. Tout le monde est parti et le paysan s'est retrouvé tout seul, au milieu de la rue. Alors il a avancé. Il a traversé la ville et a entendu qu'il y avait des gens qui chantaient. Et il s'est approché, il y avait une maison décorée, des gens qui rentraient, qui sortaient, c'était un mariage en train de se préparer. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à manger pour moi. Il s'est assis pas très loin de la porte, il a tendu la main et il s'est un peu assoupi. Puis quelqu'un l'a bousculé, l'a envoyé rouler au milieu de la rue, il s'est retrouvé sur le dos, puis il était pris dans les vêtements d'un des invités. Il avait enlevé son manteau, puis il tenait un petit sac. L'invité a pris le sac, il l'a jeté dans les mains du paysan et il s'est levé. C'est lui, je l'ai vu passer, c'est lui qui a volé le sac. Tout le monde est arrivé, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Le paysan s'est dit, mais je viens d'arriver, je sais pas de quoi vous parlez. Tout le monde a ouvert le sac et dans le sac, il y avait une statuette en or. Et l'invité s'est levé, mais c'est lui, je l'ai vu sortir. Il est rentré comme ça sans se faire remarquer, il est sorti avec la statuette, on a soulevé le paysan, on l'a amené devant le juge et le paysan, il a eu beau expliquer qu'il connaissait rien à cette histoire, qu'il venait juste d'arriver. Le juge a rien voulu savoir. Et pour faire un exemple, comme toute la famille était là, toute la ville s'était rassemblée, ben il l'a condamné à mort. Le paysan n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. On a été chercher un grand sac de cuir, on l'a mis dedans, on a refermé le sac et on l'a balancé dans la rivière. Le paysan, dans son sac, il sentait les pierres, il sentait le froid, le courant qui l'emportait. Puis quelque chose l'a sorti de l'eau. Puis il a entendu un petit... Il a vu la lumière au-dessus de lui. Il a sorti la tête du sac et il a vu devant lui l'ours, le singe. Puis il a peut-être souri qu'il finissait de ronger la corde. Il les a remerciés vraiment. Puis il a repris son chemin. Mais à chaque fois qu'il faisait quelques pas, il se retournait, ils étaient derrière. « Non mais il faut pas rester avec moi, hein. Moi je peux rien vous donner, j'ai rien à manger. Allez, filez, partez de votre côté. » Mais il avait beau avancer, ils étaient toujours là. C'est comme ça qu'ils ont voyagé, tous les quatre. La nuit est arrivée, ils se sont... trouvaient un petit coin à l'abri, ils se sont serrés les uns contre les autres pour pas avoir froid, et ils se sont endormis. Mais pendant la nuit, la petite souris s'est réveillée, puis elle est allée trotter, il y avait une rivière pas loin, puis elle est revenue au grand galop. « Maître, il y a quelque chose pour vous, venez voir !» Le paysan s'est réveillé, il s'est frotté les yeux, il s'est approché, et au bord de la rivière, au milieu de l'herbe, il y avait une pierre bleue. Il a pris la pierre dans ses mains, il l'a un peu essuyée, il a enlevé les petites feuilles, puis il l'a caressée, elle s'est mise à briller, à chauffer dans sa main. Les autres animaux sont arrivés. Si j'arrivais à vendre une pierre comme ça, je pourrais avoir une belle maison, assez grande pour nous quatre. Quand il a relevé la tête, Devant lui, il y avait une belle maison, à 3 étages. Et depuis la maison, il y avait une bonne odeur de cuisine qui sortait. Il a poussé la porte avec la pierre dans la main, les animaux sont rentrés et il a vu une belle pièce avec un poêle tout neuf, des tentures, un coffre avec des vêtements et puis des petits paniers pour l'ours, pour le singe et pour la petite souris. Ils se sont installés là, ils étaient bien. Et les semaines ont passé, et de temps en temps, il y avait des gens du village d'à côté qui étaient un peu surpris de voir cette maison. Le paysan n'a pas expliqué, il a juste salué, il était très serviable, les gens l'aimaient bien, alors on n'a pas trop posé de questions. Par contre, il y en avait un que ça tracassait, c'était le forgeron. Alors il est allé voir le paysan, il l'a salué, il l'a félicité pour cette belle maison, pour cette belle réussite, et ils ont commencé à sympathiser un peu. Tellement sympathisé qu'un soir ils sont restés, tous les deux, là, le paysan et le forgeron, à discuter pendant que les animaux regardaient en grognant un peu, même la petite souris. Et puis un verre, et puis 2 verres, et puis 3 verres. Au bout du 4e ou 5e verre, le paysan a montré la pierre et lui a raconté tout ce qui s'était passé. Alors le forgeron félicité le paysan pour cette trouvaille. Il a demandé s'il ne pouvait pas rester pour la nuit, parce que là, il commençait à être un peu tard quand même. On lui a trouvé une petite place dans la maison, et tout le monde s'est endormi. Le paysan s'est réveillé avec un mal au crâne. Un mal au crâne, comme si on lui avait fracassé la tête avec des pierres. Et quand il s'est redressé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus son lit, il n'y avait plus la maison. Par contre, de l'autre côté de la rivière, il y avait une grande maison de fer. Et voilà. Il a fouillé dans ses poches, la pierre avait disparu. Les animaux se sont mis autour de lui, voilà. C'est pas grave, demain matin on repartira. Le singe s'est approché de lui. Maître, laissez-nous faire. Il a pris la petite souris dans sa main, il a chuchoté quelque chose à l'oreille, et hop, il l'a lancée au-dessus de la rivière, et la petite souris, tout, elle a été jusqu'à la maison. Et puis elle est revenue. Elle a été voir le singe, ouais, ça va pas être possible. Pourquoi t'as trouvé la pierre ? Ouais, j'ai trouvé la pierre, oui. Elle est au grenier, dans un tas de grains. Seulement à côté du tas de grains, il y a un chat, ça va pas être possible. Ah, mais écoute, tu vas faire ça. Il a chuchoté quelque chose à l'oreille, puis il l'a lancé au-dessus de la rivière, tout, elle est arrivée jusqu'à la maison. Elle est revenue, ça y est. Le lendemain matin, dans la maison de fer, le forgeron s'est réveillé. Il avait bien dormi. Il s'est étiré dans son grand lit, au milieu de ses draps de soie, sous ses belles couvertures. Il s'est étiré, il s'est redressé. Tiens, c'était bizarre, il avait un peu froid dans la nuque. Puis sur sa tête aussi, il s'est retourné sur son oreiller et il a vu tous ses cheveux qui avaient été rongés pendant la nuit. Ça, c'est un coup de la petite souris, à t'en voir. La nuit suivante, il a été chercher son chat et il l'a attaché à côté de son lit. Comme ça, le singe et la petite souris, bah, ils ont traversé. Ils sont allés directement au grenier qui était vide. Ils ont ramené la pierre, ils ont descendu la maison et ils sont retournés près de la rivière. Sauf que la rivière, elle avait grossi. Et le singe avait beau chercher, il n'y avait plus les petites pierres pour traverser. Alors, bah, l'ours leur a fait signe, ne vous inquiétez pas, je viens vous chercher. Il a traversé la rivière. Allez, je vous ramène. Le singe est monté sur le dos. La petite souris, elle est montée dans l'oreille, elle s'est endormie tout de suite. Et le singe a mis la pierre dans sa bouche, il s'est accroché à l'ours et ils ont traversé. Il y avait du courant, mais le petit ours, il était solide. Hein, on fait une belle équipe tous les trois. Hein. La petite souris pour le repérage, toi pour les idées et moi, je vous ramène. La petite souris n'a pas répondu puisqu'elle dormait. Le singe qui avait la pierre dans la bouche a juste dit « Ah, c'est sûr !» Mais l'ours, lui, continuait à avancer, il luttait, il y avait l'eau qui le faisait déraper. Quand même, pourriez m'encourager un peu, c'est pas facile. Hein. Puis le singe qui voyait bien qu'ils n'avançaient pas. « Mais si tu nous aides !» Et clac ! La pierre est tombée, droit dans la rivière. Ils ont fini leur traversée, ils sont arrivés de l'autre côté. La petite souris s'est réveillée, j'ai raté quelque chose. Mais oui, cet imbécile, il m'a forcé à parler. Du coup, maintenant, la pierre est tombée dans la rivière. La petite souris s'est mise à courir le long de la rivière. Oh là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mon Dieu, mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Dans la rivière, on a vu une grosse bulle. Puis une grenouille qui a sorti la tête de l'eau. Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Oh, c'est terrible, c'est terrible. J'ai perdu quelque chose dans la rivière, ça va dériver. Il faudrait faire un petit mur pour empêcher que ça dérive. Oh là là, mon Dieu, mais c'est terrible, c'est terrible. Bon, d'accord. Poum. La grenouille a replongé, elle a été chercher toutes les grenouilles. Et toutes les grenouilles ont commencé à construire un petit mur avec toutes les pierres. Et une des grenouilles a ramené la pierre bleue, clac, sur le dessus. Le paysan, il a juste à ramasser la pierre, à l'essuyer. Et elle a recommencé à briller. Elle a recommencé à chauffer. Avec la pierre, le paysan a pu retrouver sa maison. Et il a pu à nouveau s'installer avec l'ours, le singe et la petite souris. C'est l'histoire d'un roi. Et ce roi tenait son royaume d'une main de fer. Couvre-feu, l'armée dans tous les coins de rue, et tous les matins à 8 h, conseil des ministres. À côté de lui, il y avait son fils, le prince. Il assistait au conseil des ministres depuis qu'il avait 6 ans. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il soit fatigué, qu'il soit malade, il était là, et il devait faire 2 choses, écouter et se taire. Alors il écoutait et il se taisait. À 18 ans, c'était un garçon pas très joyeux, mais pas très bavard. Ce matin-là, le roi est arrivé, ses ministres se sont installés autour de la table. Il était 8 h moins 10. Le prince n'était toujours pas là. 8 h moins 5. Le prince n'était toujours pas là. À 8 h, tous les ministres se sont regardés et ils ont vraiment dit qu'aujourd'hui, il ne fallait pas ramener de mauvaises nouvelles. Vraiment pas. À 8 h 15, les portes de la salle du conseil se sont ouvertes, toutes grandes, et on a vu arriver le prince, avec un sourire, mais jusqu'aux oreilles. On ne l'avait jamais vu sourire comme ça, ce prince-là. Il s'est jeté dans les bras du roi. « Papa ! C'est magnifique, c'est merveilleux, papa, j'ai enfin compris, j'ai enfin compris !» Mon fils, tu es en retard. Installe-toi, on va commencer. Mais non, papa, j'ai enfin compris qui j'étais. J'ai compris, c'est magnifique. Oh, papa, je suis un coq. Le roi a regardé son fils. Un coq? Mais oui, c'est formidable. Je vais enfin être utile à notre peuple. Je vais pouvoir lui chanter l'arrivée du soleil, le réveiller tous les jours. Et en me disant ça, il a enlevé ses vêtements. Il s'est retrouvé nu comme un ver. Tous les ministres ont baissé la tête pour pas regarder. Il s'est jeté sur la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Et là, devant la ville qui se réveillait. Ah, ah, ah. Les ministres ont presque glissé sous la table. Le roi s'est levé, blanc comme un linge. Vous allez me chercher tous les médecins du royaume, je les veux ici dans 1 h. Tous les ministres ont pris leurs affaires, ils ont foncé hors de la salle et 1 heure après, tous les médecins du royaume étaient là. En file indienne. Et ils cherchaient le prince. Il y en a un qui a été poussé devant par les autres et ben, il a fallu chercher, le roi était là. Majesté? Majesté? Il a levé la tête, il a regardé en haut d'une étagère. Il y avait le prince là-haut. Majesté, vous pourriez descendre s'il vous plaît? Oui, non, d'accord, mais descendez, ce sera plus simple pour vous examiner. Bon, le roi l'a chassé celui-là. Bien, deuxième médecin qui s'est installé. Majesté, je vais vous montrer des dessins. Vous allez me dire ce que ça vous évoque. Comme ça, sans réfléchir. Qu'est-ce que vous voyez là? Il a ouvert un petit papier. Le prince a regardé. Mm-hmm. Et sur celui-là, qu'est-ce que vous voyez? Bon, on a chassé celui-là aussi. Un troisième médecin est arrivé. Il a demandé à ce qu'on ferme toutes les fenêtres. Il a installé un grand chaudron. Il a pris une poule en osier. Esprit du coq, sors de ce corps, sors de ce corps. Le roi les a chassés tout de suite. Et puis, des médecins sont arrivés avec Une grande chemise. Et puis, une grande baignoire. Et puis le roi a dit non, laissez-nous tranquille. Sortez, vous avez fait ce que vous voulez. Laissez-nous tranquille. Alors tous les médecins sont sortis. Et puis le roi est resté dans la salle du trône avec son fils, tout nu, qui courait partout. Il a demandé à ce qu'on lui apporte des épis de maïs. Et puis il a égrené du maïs. Et il lui a donné du maïs. Ça a duré quelque temps. Ça a duré plusieurs semaines. On ne savait pas ce qui se passait. On disait que le roi était mort, que le prince était fou. Plus personne rentrait dans le palais. Un matin, un vieil homme s'est présenté à l'entrée et il a dit à un des gardes, « Excusez-moi, jeune homme, je voudrais... On m'a dit que le prince était malade et je pense que je pourrais le guérir. » Entre chez toi, le vieux. Je laisse passer personne. Je me permets d'insister parce que je pense que le roi est vraiment, vraiment ennuyé avec son fils et je pense qu'il aurait besoin que quelqu'un l'aide. Entre chez toi, le vieux. J'aime pas taper les vieux, mais là, tu m'obliges. Bon, d'accord, vous énervez pas. Écoutez, vous allez juste voir le roi et vous lui dites que parfois, pour sortir un ami de la boue, il faut qu'un autre ami s'y mette avec lui.
Le garde l'a regardé. Restez là, j'y vais.
Il est allé dans la salle du conseil, où le roi était là, en train d'égrener, puis de lancer du maïs à son fils, qui picorait, qui courait partout. Majesté, il y a un vieux à l'entrée, et il dit que... il m'a dit de vous dire que... il y avait un ami qui était dans la boue, et qu'il fallait s'y mettre aussi. Non, fallait le sortir. J'ai pas bien compris. Vous voulez qu'il monte ? Le roi a regardé le garde. Oui, je veux bien. Je veux bien qu'il arrive. Je veux bien qu'il vienne. On a fait rentrer le vieil homme. Il est arrivé dans la salle du conseil qui était en désordre avec des piles de maïs. Puis sous la table, il y avait le prince toujours nu qui regardait. Et puis le vieil homme s'est approché d'une chaise. Il a commencé à enlever ses vêtements. Le roi le regardait, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est retrouvé lui aussi, nu comme un ver, il s'est mis au milieu de la pièce. Le prince, quand il a vu ça, il était ravi, il est sorti, ils ont commencé à caqueter tous les deux, à courir partout. Et le roi, mais il y a deux hommes nus dans la salle du conseil. Il a demandé à ce qu'on lui apporte double dose de maïs et il a égrené encore plus de maïs. Et ils ont couru, ils ont caqueté, ils ont fait des cocoricos. Et puis le vieil homme s'est arrêté, puis... Il s'est déplié, il s'est étiré. Le prince, quand il a vu ça, qu'est-ce que tu fais ? T'es pas un coq ? Ah si ? Si, je suis un coq, regarde. Je peux m'étirer, parce que j'ai envie de m'étirer. Je peux être debout et être un coq. Ah oui ? Ah, c'est pas bête. Et le prince, s'est étiré, ça faisait du bien. Puis le vieil homme est allé se rhabiller. Le prince a couru derrière lui, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es un coq ? Reste comme moi. Il me fait un peu frais quand même ici. Mais de toute façon, je suis toujours un coq, regarde. Oui, le prince a trouvé que c'était pas une mauvaise idée. Puis il fait un peu frais, il a été chercher ses vêtements. Et puis le vieil homme a demandé à ce qu'on lui apporte un repas. Ils se sont installés à table. Ils ont commencé à manger. Le vieil homme a servi au prince un verre de vin. Et le prince a regardé le vin. Mais qu'est-ce que tu me fais faire ? Je suis un coq, moi, je bois pas de vin. Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Le vieil homme l'a dit, mais t'inquiète pas. Approche-toi, je vais te dire un secret. Tu peux manger comme un humain, tu peux te comporter comme un humain, tu peux même t'habiller comme un humain, mais au fond de toi, tu peux toujours rester un coq. Oh. Ça, le prince, il n'y avait pas pensé tout seul. C'était génial. Il a demandé à ce que des serviteurs entrent et rangent toute la salle. Il a fait sortir tout le maïs et dès le lendemain, il était à nouveau présent pour le conseil des ministres. Il a écouté, il n'a rien dit. Puis les années ont passé et le vieux roi a laissé sa place. Le prince est devenu roi. Et le royaume a bien vécu avec ce roi-là, qui était juste. Tous les matins, avant de descendre au conseil des ministres, le jeune roi, quand il passait... Près d'une fenêtre, il regardait tout autour de lui Quand le couloir était bien dégagé, qu'il n'y avait personne, il ouvrait la fenêtre, il montait dessus. Puis il redescendait. Et il repartait à ses affaires de roi.
Asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras silbando como el caracol. La casa cuesta hacia la sal, van los gitanos todos los días. Ellos no saben de dolor, en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras. Y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No se llora, ni en la vida deseo triunfar. Sobre los campos del talar, junto a las vías, van los lincheras. Y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy.